14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Delphine, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe quelle maman. Du jour au lendemain, qui peut disparaître.
On veut la vérité. On est épuisé. C'est des cauchemars nuit et jour. Donc imaginez deux enfants qui n'ont plus leur maman.
Que ceux qui savent disent. Parle. Il est temps. Pour le bien des enfants, pour le bien de la famille. On ne peut pas rester comme ça.
Bonjour. À quoi joue Cédric Jubilard? Et s'il s'agit d'un jeu, est-il destiné à brouiller les pistes et à semer le doute? Depuis 13 mois, c'est lui et lui seul qui est devenu le maître de l'enquête sur la disparition de son épouse, Delphine. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le village de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Et depuis cette date, aucune trace de la jeune femme n'a pu être retrouvée. Au fil des mois, Cédric Jubilard, témoin numéro 1 puis suspect numéro 1, est devenu aux yeux des enquêteurs la seule personne capable de pouvoir déverrouiller l'enquête et pouvoir les conduire à la disparue. Rarement un suspect n'aura été autant épié, suivi, surveillé. La moindre de ses paroles serait en mesure de donner la plus précieuse des indications. Ce face-à-face va-t-il porter ses fruits? Les enquêteurs abattent-ils leur dernière carte? Et s'il s'était trompé de coupable? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette histoire.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Cédric Jubilard. Depuis plus d'un an, cet homme de 35 ans est au centre d'une gigantesque enquête ouverte après la disparition de son épouse Delphine, introuvable malgré d'incessantes recherches. Ce lundi 17 janvier 2022, les gendarmes sont à nouveau à pied d'œuvre dans la campagne de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Depuis trois mois, ils ratissent ce coin planté d'arbres et d'arbustes, succession de talus et de petits fossés propices à des cachettes. Ce jour-là, les enquêteurs sont appuyés par des militaires du 17e régiment parachutiste de Montauban, une quinzaine d'hommes des fosses, les fouilles opérationnelles spécialisées, des soldats qui agissent généralement sur les terrains de guerre, experts dans la découverte d'indices et de cadavres, dans des décors toujours très difficiles d'accès.
Dans ces zones très boisées, la difficulté c'est d'être très minutieux. Un travail au GPS, donc il y a un quadrillage très précis de la zone à respecter très scrupuleusement pour ne pas passer à côté du moindre centimètre carré de terrain. Mais en tout cas c'est un travail compliqué, fastidieux.
La ferme de Drignac, à environ 2 km de la maison des Jubilards, un ensemble de maisons, est inspectée en priorité. La ferme a déjà été visitée à deux reprises par les enquêteurs, sans résultat. Cette nouvelle journée de fouilles s'avère infructueuse. Dans les jours suivants, gendarmes et militaires se déplacent en contrebas de la bâtisse, route de Millard. Un vallon est inspecté, des arbustes tronçonnés, la végétation nettoyée. Un radar capable de sonder le béton et des détecteurs de métaux sont employés. Les 120 militaires et gendarmes ne vont rien découvrir, aucune trace de Delphine. Si les enquêteurs s'intéressent autant à la ferme de Drignac, c'est que celle-ci apparaît à l'épicentre de la disparition. C'est Cédric Jubilard en personne qui a désigné ce lieu rapidement accessible depuis son domicile de Cagnac-les-Mines. Il a évoqué une première fois la ferme qui a brûlé auprès de Séverine, sa nouvelle petite amie, peu avant le 18 juin 2021, date de sa mise en examen. La maison en question, abritant à une époque des voitures de collection, avait effectivement été frappée par un incendie. Placé à l'isolement, l'artisan plaquiste a réitéré ses propos auprès de Marco, un co-détenu habitué au séjour en prison. Les prisonniers échangeaient des messages par les fenêtres de leur cellule mitoyenne. Cédric Jubilard a raconté qu'il avait tué Delphine après l'avoir surprise en train d'envoyer des textos à son amant. Il précise qu'il a enterré le corps à la ferme qui a brûlé. Le dénommé Marco va se confier à l'administration pénitentiaire, sorti de prison au mois d'octobre. Il va même aller sur place, à la ferme de Cagnac, et prendre contact avec la petite amie Séverine. C'est ce ménage et ces révélations qui intriguent depuis des semaines les gendarmes et les juges d'instruction. Des confidences suffisantes pour entretenir tous les doutes et l'espoir de retrouver Delphine. Mais Cédric Jubilard va revenir sur ces révélations et prendre un virage à 360 degrés. Dans deux lettres adressées début janvier à sa compagne Séverine, il indique qu'il a raconté des conneries. « J'ai rapporté n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, plus de blablotage avec personne, je te promets », indique le détenu dans ses courriers révélés par le journal La Dépêche du Midi. Cédric Jubilard s'excuse d'avoir causé des ennuis à Séverine, un temps placé en garde à vue. Marco Le codétenu fait partie des personnes qui m'ont baisé avec de faux témoignages. Voilà pourquoi tu as été en garde à vue. On ne peut avoir confiance en personne. J'ai bien compris que je me suis fait baiser en beauté. Si tu veux bien accepter mes excuses. Et voilà donc pour les dernières confidences, les dénégations et les regrets de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard qui tient en haleine des dizaines de gendarmes et les deux juges d'instruction depuis maintenant 13 mois. On a l'impression que cette histoire ne va jamais en finir. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui. Patrick Hisson, vous êtes correspondant RTL au bureau de Toulouse, vous suivez cette affaire et vous avez suivi cette dernière campagne de fouilles. On a l'impression que c'est une opération gigantesque sur le terrain, racontez-nous.
C'est une opération gigantesque parce qu'elle va prendre beaucoup de temps. Vous l'avez dit dans votre présentation, c'est centimètre carré par centimètre carré à l'aide de détecteurs de métaux qui sont inspectés. 14 hectares, ça fait forcément plusieurs semaines de travail à la recherche. Alors, d'un corps peut-être, d'objets métalliques que pourrait porter ce corps, une bague, une boucle de ceinturon, etc., etc., qui pourrait être détecté jusqu'à 2 mètres de profondeur. Il y a également un géoradar qui n'a pas été utilisé pour l'instant, mais qui peut l'être pour découvrir des cavités au sol dans cet endroit qui n'en recèlerait cependant pas beaucoup. Hein.
Voilà. Alors, et effectivement, c'est pas du jamais vu, effectivement, ce genre de recherche. On a vu ça pour Fourniret, par exemple, mais dans le temps, ça s'est beaucoup étendu. Là, ils reviennent systématiquement au même endroit. C'est cette ferme qui retient toute l'attention.
Oui, pour les raisons que vous avez évoquées, après ce témoignage donc de ce codétenu de Cédric Jubilard. Alors, s'ils s'y rendent, c'est que tout simplement, ils sont obligés de vérifier cette hypothèse.
Bien sûr.
Je ne crois pas que les enquêteurs soient persuadés de la présence du corps à cet endroit, mais en l'absence d'autres éléments, d'autres hypothèses, d'autres indices sur la localisation du corps, eh bien, ils sont dans l'obligation de vérifier cette piste.
Bien sûr. Bonjour Frédéric Abella. Merci d'être en direct dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes journaliste à La Dépêche du Midi et c'est votre journal La Dépêche du Midi qui a révélé cette volte-face de Cédric Jubilard. Que faut-il penser de ces propos prononcés par Cédric Jubilard et ensuite retirés? J'ai tué Delphine et puis je ne l'ai pas tué, j'ai dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
De Cédric Jubilard, tant il a l'habitude de dire tout et son contraire depuis très longtemps maintenant, depuis le début de cette affaire. Aujourd'hui, alors effectivement, dans ces lettres que nous avons révélées, effectivement, il fait volte-face et il dit en s'adressant à sa compagne Séverine qu'il a raconté n'importe quoi, qu'il s'est fait avoir par Marco. Je pense qu'il est dans une telle détresse, dans un tel enfermement que on a l'impression qu'il veut malgré tout exister, de par son isolement et qu'il veut être au centre de cette affaire malgré tout. Bien sûr,
on peut l'interpréter de diverses manières, Frédéric Abella, le fait de vouloir être au centre. Ça peut vouloir dire soit diriger les débats et faire courir tout le monde, ou alors continuer à exister et clamer son innocence. Il y a les deux options qui se dessinent.
Oui, on est dans ces deux cas de figure. Toujours est-il que, comme vous l'avez dit, les recherches continuent pour trouver quelque chose, pour trouver un corps, pour trouver des objets métalliques ou autres, quelque chose qui peut nous relier, à cette énigme et à Delphine, et à Delphine Jubilard. Maintenant, les enquêteurs et la justice donnent tous les moyens pour chercher, et surtout pour fermer encore une fois des portes et pour ne pas avoir à regretter, quelque chose. Et ils ne peuvent pas faire l'économie de ces recherches, tant cette ferme et cet endroit ont été évoqués par le passé par Cédric Jubilard. Donc, c'est pas possible de ne pas rechercher.
Bien sûr, c'est un endroit qui est stratégique et on ne peut pas faire l'économie, comme le disait Patrick Hisson, l'économie de ces recherches. Bonjour maître Jean-Baptiste Allary.
Bonjour monsieur Richard.
Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui dans l'heure du crime sur RTL. Vous êtes l'un des avocats avec maître Emmanuel Franck et maître Alexandre Martin de Cédric Jubilard. Eh bien, je vous repose la même question. Que pensez-vous de cette déclaration faite à prison par votre client ?
Moi, je considère que les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été faites reste très surprenante. Il avait effectivement déjà évoqué auprès de Séverine cette ferme qui a brûlé. C'était sur le ton de la plaisanterie, c'est d'ailleurs ainsi qu'elle l'avait pris, hein. Il n'y avait pas de doute là-dessus. C'est un élément qui était connu des gendarmes depuis le 17 juin, je crois. Donc j'avoue que cela se ressorte maintenant, en réalité au mois de septembre, lorsque ce co-détenu a souhaité être entendu. J'avoue que ça me laisse totalement dubitatif.
On peut dire quand même qu'on a l'impression qu'il brouille un peu les pistes, votre client. Il a fait perdre beaucoup d'énergie aux enquêteurs.
Il fait perdre de l'énergie parce que très précisément, on n'écoute pas lorsqu'il dit « non mais là j'ai dit n'importe quoi » et on n'est pas obligé de tout prendre au pied de la lettre, de diligenter des investigations impressionnantes. Ça serait bien qu'autant d'énergie soit déployée pour rechercher autre chose.
Cédric Jubilard serait-il un homme qui joue avec tout le monde, comme l'estiment certains acteurs du dossier? Le fait est que depuis plus d'un an, les enquêteurs n'ont pas pu le confronter à des témoignages capitaux ou des indices sérieux. Faute d'éléments capitaux, les deux juges d'instruction de Toulouse, Audrey Asma et Coraline Chartier, n'ont d'autre choix que de s'accrocher à quelques détails qui pourraient faire la différence. Ces derniers jours, les enquêteurs et notamment les experts en comportement de la gendarmerie ont repassé en revue les déclarations et les gestes de Cédric Jubilard dans les heures suivant la disparition. Selon eux, la clé de la vérité se cache dans le déroulé de ces heures cruciales. Lors de ces auditions, l'artisan plaquiste a toujours répété qu'il s'était mis au lit vers 22h30 ou 23h. Il a commencé à jouer à Game of Thrones sur son portable avant que l'appareil, faute de batterie, ne se déconnecte. Il se serait endormi, laissant le téléphone en charge, puis le rallumant à 3h53 du matin. C'est à ce moment-là qu'il se serait aperçu de la disparition de Delphine. Les enquêteurs vont s'attacher à trouver toutes les failles possibles, les incohérences pouvant apparaître dans cet emploi du temps. Une expertise menée par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie a ainsi porté sur le téléphone. Les experts ont été surpris de constater que le portable n'affichait à 4h12 du matin, au moment donc où Cédric Jubilard affirme l'avoir rallumé, qu'un niveau de charge de 33%, un pourcentage incompatible pour un appareil branché depuis au moins 3 heures. Cédric Jubilard, ainsi que l'avait révélé le journal Le Parisien, aurait encore omis de déclarer qu'il avait fait une balade en solitaire autour de la maison de Cagnac aux alentours de 22 heures. Une voisine affirme l'avoir croisé dans ce créneau horaire. Il marchait seul en direction du terrain de boules et aurait baissé la tête en apercevant cette femme. Les experts ont encore beaucoup cogité sur l'attitude prêtant à confusion de Cédric Jubilard. Juste après qu'il eut alerté les autorités sur la disparition de Delphine, mercredi 16 décembre, autour de 5h du matin, il indique ainsi aux tout premiers enquêteurs « Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'elle n'est plus là ?» À sa mère, qui arrive vers 8h30, il confie « J'ai perdu ma femme », des phrases considérées comme définitives par les spécialistes du comportement, des espèces d'aveux qui indiqueraient que Cédric Jubilard aurait fait le deuil de cette épouse qui allait le quitter. Les gendarmes ont enfin noté que le soir de la disparition, contre toute attente, le mari n'est pas allé dormir dans la maison de Cagnac où il aurait pu avoir espoir de voir réapparaître Delphine. Il a préféré passer la nuit avec ses enfants chez sa mère, une attitude déroutante pour ses accusateurs. Lors de sa mise en examen pour homicide sur conjoint, le procureur Dominique Alzéari avait décrit un homme en constante contradiction avec lui-même. Bon courage pour comprendre ce qu'il dit, soit tout et son contraire. Et voilà Cédric Jubilard accusé de dire tout et son contraire. Bonjour maître Philippe Pressec.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes avocat des amis et de la cousine de Delphine Jubilard. Sur ce comportement, les paroles que prononce, que raconte Cédric Jubilard et puis le fait qu'il retire ses paroles dans la foulée, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette attitude?
Oui, eh bien, je crois que nous sommes tous unanimes à constater que depuis le début de cette affaire, Cédric Jubilard provoque et manipule. Il a manipulé sa famille, ses amis, les enquêteurs, les juges. Mmh. Et même depuis qu'il est en détention provisoire, effectivement, même dans sa cellule, il se débrouille pour essayer d'attirer sur lui, en quelque sorte, une lumière.
Alors, attirer une lumière, je l'entends bien, maître Pressec, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche à brouiller les pistes ou bien c'est uniquement le fait de vouloir exister et d'être innocent, comme on disait tout à l'heure?
Mais écoutez, ce qui est intéressant, je pense, dans la personnalité de Cédric Jubilard, c'est que les deux thèses sont possibles. Ce comportement peut être autant un comportement de coupable qu'un comportement d'innocent. Mais ce qui est certain, c'est que, bon, sur ces déclarations faites à un co-détenu et qui ont amené aux recherches qui sont faites aujourd'hui, moi, je suis très dubitatif. Voilà quelqu'un qui nie avec une grande constance avoir commis les faits qu'on lui reproche. Comment voulez-vous qu'on puisse croire une seule seconde au fait qu'il aurait, à travers des barreaux, fait un aveu aussi monumental à quelqu'un qui ne connaît en réalité pas? Donc, tout ça ne tient absolument pas la route.
Donc, il y a une part de provocation chez lui, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, beaucoup de provocations. On se souvient que au début de l'année 2021, il avait raconté qu'il avait, oui, tué sa femme. Et après, il avait dit que c'était une blague. Donc, c'est très, très amusant de faire des blagues autour de cela, bien sûr. Mais il a une personnalité qui est vraiment très axée sur ce mélange de provocation et de manipulation.
Donc, une personnalité déroutante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est d'ailleurs le constat que fait à peu près tout le monde, y compris les enquêteurs. Patrick Hisson, il faut le répéter quand même que le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé, on le sait, ni son téléphone, d'ailleurs, c'est important, et que le périmètre dans lequel ce corps aurait pu être caché, si c'est Cédric Jubilard, effectivement, qui l'a emporté et qui a tué sa femme, c'est un périmètre très restreint.
Alors, très restreint, c'est très relatif aussi, j'allais dire. Là, on cherche effectivement à 2 kilomètres, un petit peu moins seulement, du domicile de Cédric Jubilard. Cela peut être un peu plus éloigné, dans la mesure où il y a le bassin minier de Carmaux qui est à une dizaine de kilomètres. Il aurait pu, s'il s'agit de Cédric Jubilard, transporter le corps jusqu'à une dizaine de kilomètres. Il a, allez, entre 3 et 4 heures, à peu près, entre le moment où il éteint son téléphone, où il dit s'être couché, même si ça varie selon ses dépositions, entre 10h30 et 11h, et 3h52, le moment où il rallume son téléphone. Donc, périmètre restreint, 2 kilomètres, bon, c'est sûr que c'est très proche. Il aurait pu aller dans l'autre direction, à hauteur de ce bassin minier de Carmaux, qui est truffé, on le sait, on l'a répété à plusieurs reprises, de galeries qui sont aujourd'hui certes fermées au public, mais il aurait pu, s'il s'agit d'un meurtre prémédité, eh bien, imaginer déplacer un corps en endroit précis, un petit peu plus éloigné.
Dans ce terrain tout à fait accidenté, et vous y êtes allé évidemment, vous avez fait des reportages là-dessus, on vous a entendu sur l'antenne de RTL. Frédéric Abala, journaliste à la Dépêche du Midi, on a le sentiment qu'il fait très vite le deuil de Delphine Cédric Jubilard. C'est en tout cas ce que disent les analystes du comportement de la gendarmerie.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'ont révélé très tôt les enquêteurs, c'est ce qu'ils ont observé de son comportement, puisque ils s'aperçoivent quelques jours après la disparition de son épouse que d'un, il ne la cherchait pas vraiment, et que deux, il parlait d'elle au passé. Et très vite, il a voulu tourner la page en quelque sorte de cette relation qui était quand même assez toxique entre lui et son épouse depuis des mois que ça durait, puisqu'il vivait sous le même toit, tout en acceptant bon an mal an des relations extra-conjugales. Donc il trouvait quelques accommodements avec cette vie-là, mais toujours est-il que Cédric Jubilard, selon les enquêteurs, oui, il a tourné la page, il a voulu tourner la page très vite de cette relation.
Et il va le confirmer d'ailleurs avec sa nouvelle petite amie, puisqu'il va très vite retrouver, entre guillemets, l'amour, très rapidement. Donc ça, effectivement, il tourne cette page, et ce qui trouble les enquêteurs. Maître Jean-Baptiste Allary, l'un des avocats de Cédric Jubilard, est-ce que selon vous, je sais que vous en avez déjà parlé, mais il est bon de le redire, est-ce que selon vous, des pistes ont été oubliées par les gendarmes ?
Cette enquête est menée exclusivement dans une seule direction, c'est la culpabilité de Cédric Jubilard, vous l'avez compris. Mais il y a quand même des éléments qui nous laissent légitimement à penser que d'autres possibilités doivent être évoquées. Par exemple, la possibilité vraisemblable, très vraisemblable, que Delphine ait pu volontairement sortir du domicile ce soir-là, puisque l'on a retrouvé dans le dossier la tenue vestimentaire qui était la sienne au moment où son enfant va se coucher. Ça signifie donc qu'elle s'est changée, qu'elle a changé sa tenue vestimentaire. Et pourquoi se change-t-on à 23 heures passées, si ce n'est pour sortir de la maison?
Alors ça, c'est intéressant, mais c'est votre thèse privilégiée. Delphine aurait quitté le domicile le soir de la disparition?
C'est très vraisemblable. Alors après, attention, nous sommes quand même soumis au secret de l'instruction, donc je ne peux pas aller extrêmement loin, mais nous avons des éléments qui me laissent à penser, en tout cas, que une sortie volontaire du domicile. Alors attention, j'ai pas dit un départ volontaire. Hein. Elle a pas décidé d'abandonner ses enfants ce soir-là. C'est quelque chose qui me semble très hautement improbable. Mais une sortie, peut-être pour aller rencontrer quelqu'un, une sortie volontaire ce soir-là est vraisemblable.
Alors une sortie pour aller faire un tour, c'est ce que vous nous dites. Et j'incite encore un petit peu, maître Alary, ça veut dire que l'enquête, à un moment donné, elle va pouvoir dire que finalement, on ne sait pas, elle est peut-être sortie d'elle-même, Delphine Jubilard ?
Quand je vous dis aujourd'hui qu'il est vraisemblable qu'elle ait pu quitter le domicile conjugal ce soir-là pour aller rencontrer que je ne sais qui, ça en revanche, c'est que c'est vraisemblable. Lorsque quelqu'un à 11h du soir passé se change, alors que, a priori, rien ne l'impose, il semble que ce soit quand même pour quitter le domicile. Quand on est en pyjama à 23h devant la télé et que le pyjama, on le retrouve dans le salon, ça veut dire qu'elle l'a quitté, ça veut dire qu'elle s'est changée.
Maître Philippe Pressec, on entend Maître Alary, il est dans son rôle, il est l'un des avocats de Cédric Jubilard. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse qu'elle ait pu sortir comme ça de son domicile? Après tout, elle s'est changée, elle est partie voir quelqu'un.
Moi, je pense d'abord qu'on a justement dans cette affaire la chance d'avoir une enquête qui a démarré immédiatement après la disparition, ce qui arrive rarement lorsqu'un majeur disparaît. Et donc, les enquêteurs ont pu effectivement explorer toutes les pistes. Et contrairement à ce qui est dit, cette enquête, depuis le début, n'est absolument pas, n'a jamais été menée à charge contre Cédric Jubilard. C'est une enquête où toutes les pistes ont été explorées. Et au bout d'un moment, l'entonnoir s'est resserré. Et la seule hypothèse vraisemblable et crédible, c'est la culpabilité probable de Cédric Jubilard.
C'est Cédric Jubilard, c'est ce que vous nous dites, maître, qui effectivement aurait peut-être enlevé sa femme et l'aurait tué. Personne, dans tous les cas de figure, n'a aperçu Delphine Jubilard dans la nuit de sa disparition, hormis bien sûr les occupants de la maison de Cagnac, le mari évidemment, et puis les deux enfants du couple. Les enquêteurs et les juges s'intéressent de près aux déclarations et aux mots prononcés par le fils du couple, Louis, 6 ans et demi au moment de la disparition de sa mère. Il se trouvait dans la maison ce soir-là, tout comme sa sœur Elia, 18 mois, bien trop petite pour pouvoir raconter quoi que ce soit. Louis va être entendu à 3 reprises avec un luxe de précaution dans le cadre d'une procédure encadrée. Les auditions sont conduites par un gendarme spécialement formé à ce genre de face-à-face, le tout se déroulant dans un local neutre. Entretien enregistré, filmé, l'enfant va légèrement évoluer dans ses déclarations. Lors du premier entretien, il se souvient que la soirée du 15 décembre s'est bien déroulée. Papa et maman ne s'étaient pas disputés, ils parlaient bien. Après, on a mangé, on a regardé la finale de Un incroyable talent où ils choisissent le vainqueur. Après, je suis allé au lit. Ils n'ont pas crié parce que je les entendais. 20 janvier puis 26 novembre 2021, Louis est respectivement réentendu par les gendarmes puis par les juges d'instruction. Le petit garçon est plus détendu, plus bavard que lors de la première audition. Il répète qu'il est allé se coucher après avoir regardé la télé avec sa mère. Il ne se souvient pas comment celle-ci était habillée, en combi short de nuit comme sur la dernière photo qu'elle a adressée à son amant, ou bien peut-être avec un pull rouge comme croit le penser l'enfant, un vêtement qui n'a jamais été retrouvé. Louis, cette fois, indique que papa était avec maman, ils se sont parlé, ils se sont disputés, ils ont dit qu'ils allaient se séparer. Le garçon ne fait pas état de bruit ou de cris. Une témoin, une voisine, certifie, elle, avoir entendu des cris stridents, des cris glaçants dans le quartier du lotissement de Cagnac, à 130 mètres de la maison des Jubilards. Une scène qui aurait duré entre 5 et 10 minutes. Les seuls cris d'une femme, aucune voix d'homme, ainsi que des aboiements de chiens. Cette voisine a alors été rejointe par sa fille de 10 ans qui a confirmé avoir elle aussi entendu ces cris qui lui ont fait peur. Témoignage accablant pour les enquêteurs, mais témoignage très contesté par les avocats de Cédric Jubilard. Et justement, on a dans cette heure du crime maître Jean-Baptiste Alary, l'un de nos invités de l'heure du crime et l'un des avocats de Cédric Jubilard. Pourquoi, selon vous, maître Alary, le témoignage de ses voisines, eh bien, il ne tient pas?
Alors, pour deux raisons. D'abord, en pleine nuit, il est impossible de connaître avec autant de précision la direction ou l'origine d'un cri. Il faut se rappeler que ses voisines habitent à plus de 130 mètres à vol d'oiseau. C'est impossible. Ensuite, nous savons ce que font ces deux personnes qui entendent les cris. Elles regardent Retour vers le futur. et l'on sait qu'elles sortent à un passage précis diffusé entre 22h52 et 22h55. Or, on sait que Delphine Jubilard est en parallèle chez elle avec son fils et qu'il regarde La France a un incroyable talent. Mmh. Le petit dit « Je suis allé au lit » en décrivant précisément le numéro qui était en train d'être diffusé. Il a été diffusé entre 22h55 et 22h59. Donc, les cris ne peuvent pas être ceux de Delphine Jubilard, puisqu'elle est précisément avec son fils sur le canapé à cet instant-là.
Alors ça, c'est oui, effectivement, c'est une démonstration qui s'écoute, en tout cas, que vous allez faire, que vous portez devant les juges d'instruction. Encore un mot, Maître Allary, il y a ces auditions du petit Louis. Alors lui, le petit Louis, il parle bien d'une dispute.
Alors, le petit Louis... Je trouve honteux qu'on mette cet enfant au centre d'une accusation, et d'ailleurs la Chambre de l'instruction, de manière fort intelligente, a toujours refusé de le faire elle aussi. Cet enfant n'est pas en mesure à cet âge-là de reconstituer une chronologie aussi précise et fixer dans le temps un événement qui s'est passé plusieurs semaines auparavant. À 6 ans, on est au CP, on compte en dodo, on apprend les saisons. On commence à apprendre les saisons. On n'apprend pas ce qui s'est passé 3 semaines plus tard. Ils ne peuvent pas le restituer. Alors bien sûr que cet enfant a entendu les mots qu'il a entendus et a probablement assisté à une dispute de ses parents, mais pas ce soir-là.
Alors une dispute, c'est un couple, effectivement, Patrick Hisson, correspondant RTL à Toulouse, on peut le dire, c'est un couple qui se dispute souvent, ils sont en pleine crise, ils sont sur le point de se séparer.
Oui, ils ont chacun d'ailleurs déjà contacté un avocat pour entamer une procédure de divorce hein, qui a pas débuté mais qui allait débuter. Donc tout cela n'est pas vraiment une surprise et ils y songeaient, ils en parlaient depuis déjà quelques temps. Je voulais juste rebondir.
Allez-y.
Pardon si je reprends
Allez-y, Patrick.
Petit peu le témoignage du petit Louis. En tous les cas, à aucun moment, et Dieu sait si on lui a posé, certes avec beaucoup de tact, beaucoup de précautions, beaucoup de questions, il n'a jamais parlé de cris. Vous parliez de ces cris à 130 mètres.
Tout à fait.
Mais moi, j'ai une autre hypothèse. Et si effectivement Delphine a quitté le domicile, hein, ce que confirme, alors pas devant les gendarmes, pas devant les juges, le petit Louis, si elle a vraiment quitté son domicile ce soir-là, il est possible que ce soit après une dispute et qu'il y ait eu une altercation avec Cédric Jubilard un petit peu plus loin dans le lotissement.
Oui, mais donc ça voudrait dire qu'il y a quand même eu des cris, mais peut-être pas à l'endroit.
Ça voudrait dire que peut-être les cris viendraient d'un autre endroit, effectivement, mais pas du tout de la maison, auquel cas, sinon, Louis aurait entendu ces cris stridents qui ont été entendus à 130 mètres, vous vous rendez compte. Il était impossible pour lui, qui ne dormait pas, de ne pas entendre ces cris.
Oui, c'est-à-dire que ça va encore donner lieu sûrement à des mesures, des contre-mesures, des expertises. Là, on est parti encore avec des experts pour un bon bout de temps.
Ah, mais c'est bien possible. Hein. C'est bien possible. Mais l'hypothèse qu'elle ait quitté son domicile et que s'il y a eu effectivement une agression et un meurtre juste après, c'est une hypothèse qui est plausible, hein, qui existe. Il n'y a pas de scène de crime qui a été retrouvée.
Delphine et Cédric, un couple qui bat de l'aile et ne s'entend plus, au bord de la rupture, l'exaspération et l'humiliation de se retrouver seule à se débrouiller, aurait-elle conduit le mari à passer à l'acte? C'est le sentiment des enquêteurs. Dans les mois précédant la disparition de Delphine, le mari se serait focalisé sur les faits et gestes, les rendez-vous et les rencontres d'une épouse qu'il était en train de perdre. Il se serait lancé dans une recherche active et frénétique pour établir les activités extra-conjugales de sa femme. Il savait qu'elle avait un amant, même s'il a dans un premier temps déclaré qu'il l'ignorait. Les 2 et 6 décembre 2020, une dizaine de jours avant la disparition, le mari a consulté les comptes bancaires de Delphine. Il a remarqué sur ses relevés de comptes des dépenses de lingerie ainsi que des nuitées d'hôtel. Il aurait alors été gagné par une grande colère au point de proférer des menaces de mort à l'encontre de Delphine. Est-ce parce qu'elle ne supportait pas la curiosité intrusive de Cédric que Delphine, le 15 décembre, au matin de sa disparition, s'est rendue à Albi pour faire notamment changer les codes de ses comptes bancaires? Une opération qui aurait pu priver Cédric de pouvoir disposer de l'argent de son épouse. Celui-ci, gros consommateur de cannabis, avait pour habitude de puiser un peu d'argent dans le livret des enfants. Il lui arrivait de demander également de l'argent à son épouse. De juin à décembre 2020, Cédric Jubilard a ainsi emprunté 945 euros à Delphine. Selon ses avocats, il aurait toujours mis un point d'honneur à rembourser ses dettes. Maître Alexandre Martin précise qu'il a restitué plus de 1700 euros à son épouse. La nouvelle du blocage des comptes aurait pu agir comme un détonateur et provoquer un geste fou chez Cédric Jubilard. Le mobile, selon certains enquêteurs, le mobile est financier et il est tout trouvé. Alors un mobile financier, pourquoi pas? Il se serait vu privé d'une partie de ses ressources et ne l'aurait pas supporté. Ajouter à cela le fait que Delphine parte rejoindre notre homme, tout cela l'aurait fait exploser. Maître Jean-Baptiste Allary, l'un des avocats de Cédric Jubilard, l'argent comme mobile, c'est tout trouvé?
Non, elle n'avait pas bloqué des comptes, elle avait simplement demandé un rendez-vous auprès de sa banque pour changer le code de sa carte bancaire, parce qu'elle s'était rendue compte, et je pense que Cédric avait dû le lui dire après s'être fait lamentablement griller sur la géolocalisation, elle avait dû se rendre compte qu'il consultait l'historique de son compte depuis un distributeur automatique. Donc elle a simplement demandé à ce que son numéro de compte personnel son numéro de carte en réalité soit modifié. Mais il n'y a pas eu de blocage de compte ou de quoi que ce soit.
Alors en tout cas, il y a cette recherche effrénée de savoir ce qu'elle fabrique dans sa vie privée, Delphine. Il va même prononcer des mots qui sont très graves, hein. Un jour je vais la tuer, on ne la retrouvera pas. C'est toujours des mots qui sont frappants pour Cédric Jubilard.
Ce sont des paroles excessives que je considère comme totalement déplacées, mais qui ont été prononcées plusieurs semaines auparavant dans un contexte de séparation. Mmh. Donc il peut y avoir de temps en temps des disputes, des énervements. Ça correspond au caractère de Cédric Jubilard d'avoir le verbe haut. En revanche, elle ne s'est jamais plaint auprès de qui que ce soit de recevoir des menaces de mort venant de Cédric Jubilard. Mmh.
Maître Philippe Pressec, avocat des amis et de la cousine de Delphine Jubilard, que pensez de cette jalousie, finalement, il n'y a pas d'autre mot, de ces recherches qu'il fait sur la vie extra-conjugale de son épouse, Cédric Jubilard?
Oui, on a l'impression que vers la fin, Cédric Jubilard était totalement démonté par le fait que son épouse allait le quitter. On sentait qu'il faisait des efforts désespérés pour la garder, qu'il comprenait que c'était fini, que la découverte de sa liaison a été un petit peu un coup de plus, le coup de trop. Et ça constitue effectivement un mobile tout à fait possible et probable. Beaucoup plus sérieux que le mobile tiré de l'argent, à mon avis.
L'argent, vous n'y croyez pas? Par contre, cette espèce de pression sentimentale qui s'exerce sur lui, ça, vous êtes plutôt preneur, entre guillemets, même si ça ne donne pas la preuve d'une quelconque culpabilité, il faut bien le préciser.
Non, ça ne donne la preuve de rien, mais ça donne un mobile possible et crédible, et qui ressort de ce qui s'est passé entre eux avant les faits.
C'est ça. Patrick Hisson, pardon, correspondant RTL à Toulouse. Je vous fais rentrer au barreau, mon cher Patrick Hisson, vous êtes avocat avec moi.
Écoutez, peut-être, on ne sait jamais.
Tout peut arriver.
Il va falloir se dépêcher.
Tout peut arriver. Est-ce que c'est un violent, Cédric Jubilard?
Alors, est-ce que c'est un violent? Violent verbalement, oui, c'est ce qu'ont confirmé des proches de Delphine à plusieurs reprises. Hein. Dans l'entourage de Delphine, on a souvent entendu au moins rabaisser Delphine, sa femme. Violent aussi parce que, vous savez, la première fois que je suis allé à Cagnac-les-Mines, j'ai croisé des habitants qui m'ont un petit peu parlé de lui. Il n'y a pas eu beaucoup de révélations. La seule chose dont m'est parlé au moins deux personnes ce jour-là, c'était 2-3 jours après la disparition, c'est que Cédric était très violent avec ses chiens. Et ça, au moins deux personnes me l'ont dit.
Donc ça lui ne ressemblait pas. Ce n'était pas un comportement qu'il avait auparavant.
Oui, quelqu'un qui est capable d'être violent avec les animaux, oui. Qui parle très mal à sa femme, bon, il y a quand même un petit début de commencement de suspicion par rapport à la violence de quelqu'un.
Alors, il y a un début de suspicion, Patrick Hisson, mais encore une fois, on le répète, il n'y a pas d'indice, de preuve accablante contre lui. Tout ça, c'est un ensemble de suspicions qui se ressemblent et se rassemblent, j'ai envie de dire.
C'est ce qu'on dit depuis le début, il n'y a pas de découverte de corps, on en a parlé, ouais. Pas d'aveu évidemment de Cédric Jubilard, à part peut-être potentiellement à des co-détenus, mais ce n'est pas très crédible, et surtout pas de scène de crime à l'intérieur de la maison, ni à l'extérieur. Forcément, il y a eu des recherches à l'extérieur, on n'a pas trouvé de traces de sang par exemple, ou d'une partie de cheveux de Delphine Jubilard sur une lutte qui aurait pu intervenir à proximité de la maison.
Pas de preuves, mais les gendarmes et les juges vont tout faire pour empêcher Cédric Jubilard de sortir de prison. Le mari de Delphine, qui supporte mal la détention, va devoir bientôt à nouveau affronter les juges. Vendredi 14 janvier 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse rejette la troisième demande de mise en liberté de Cédric Jubilard. Les juges craignent qu'il fasse disparaître des preuves s'il devait sortir de prison. Ses avocats estiment que cette détention provisoire ne se justifie pas. Ils font savoir qu'il n'existe aucune preuve dans ce dossier, même si les enquêteurs et les juges d'instruction s'appuient sur un faisceau de présomptions graves et concordantes. Le 11 février, Cédric Jubilard sera à nouveau entendu par les juges de Toulouse. Le mari devrait être réinterrogé une énième fois sur son emploi du temps dans les heures précédant la disparition. Les juges privilégient toujours la thèse d'une violente dispute sur fond de séparation annoncée du couple, dispute qui aurait dégénéré en coup violent. Reste toujours à savoir comment, en un temps record et sans se faire remarquer, le mari aurait pu se débarrasser du corps de sa femme. On le répète, maître Jean-Baptiste Allary, l'un des avocats de Cédric Jubilard, on le répète depuis le début de cette heure du crime, mais il faut bien le souligner, il n'y a pas de preuve matérielle contre Cédric Jubilard. Et c'est d'ailleurs l'axe fort de votre ligne de défense, ça, vous n'en démordez pas.
Mais non, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de scène de crime, pas une égratignure nulle part sur le visage ou sur les mains qui laisserait à penser qu'en allant enterrer son épouse dans un coin, il se serait griffé en pleine forêt. Il n'y a rien. Les voitures ne sont pas pleines de boue, il n'y a pas de traces de nettoyage non plus d'ailleurs, elles sont sales et normalement sales. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas une trace de sang, il n'y a rien.
Vous pensez obtenir la prochaine demande de remise en liberté? Est-ce qu'elle sera acceptée, cette demande?
Ah ben là maintenant, ça va devenir une évidence, une nécessité même. Donc, sauf à ce que le dossier connaisse des revirements terribles dans les temps à venir, Cédric Jubilard sera libéré, oui.
Et sur quoi va porter le prochain interrogatoire, maître, le 11 février?
Très honnêtement, c'est très difficile à dire. Ça peut être tout simplement ses relations avec Séverine, les déclarations du co-détenu, c'est dans la logique. Et puis on aura aussi les résultats des fouilles actuelles, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va en découler. Après, on ne peut pas vraiment anticiper avec certitude ce que les magistrats instructeurs vont demander à Cédric Jubilard.
Maître Philippe Pressec, vous défendez les avocats des amis et de la cousine, les amis et la cousine de Delphine Jubilard. Est-ce que cette détention provisoire est faite pour le faire craquer finalement, Cédric Jubilard?
Non, je pense que la détention provisoire est tout simplement logique et l'application normale de la loi pénale. Quand il existe contre une personne des indices, vous l'avez cité, graves et concordants, et l'arrêt de la chambre de l'instruction les liste sur 3 pages, les indices graves et concordants.
Alors, lesquels sont-ils en quelques mots, maître? Parce que parfois on s'y perd un peu.
Et que la personne nie, il est tout à fait normal de l'écarter pour ne pas qu'elle puisse perturber les recherches faites par les enquêteurs. Donc les indices, il y a des indices matériels et psychologiques. Après, moi je ne vais pas rentrer dans le système consistant à vous dévoiler le secret de l'instruction et vous les exposer, mais il y a 3 pages.
Il y a 3 pages, donc c'est en gros la démonstration des juges à l'encontre de Cédric Jubilard, c'est ça, hein.
Ben, effectivement, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveu. Mais nombre de dossiers criminels dans l'histoire du crime aboutissent à des condamnations dans des cas similaires. Il y a dans cette affaire des bribes de vérité, des petits morceaux qui sont accumulés par les juges. Et ce que nous espérons, nous, en tant que partie civile, c'est que ces petits morceaux de vérité qui sont en train d'être accumulés vont finir par faire une certitude et une culpabilité.
Alors ces petits morceaux de vérité, ça c'est intéressant effectivement, parce que c'est mis bout à bout, construit comme ça, un dossier. Maître Allary, il est dans quel état d'esprit votre client aujourd'hui? Il est incarcéré, je le rappelle. Il craque, il craque pas?
Il continue de clamer son innocence. Il aimerait bien qu'on l'écoute un peu. Il aimerait pouvoir avoir des relations humaines un peu plus normalisées, parce qu'il est toujours à l'isolement depuis le mois de juin maintenant. Ça devient un traitement totalement indigne et scandaleux. On est là pour le soutenir, que nous allons le voir aussi régulièrement que possible. Non, il ne craque pas, il est déterminé à démontrer qu'il n'y est pour rien dans la disparition de son épouse.
Alors voilà, donc ça c'est effectivement ce qu'il dit et qu'il répète depuis sa cellule. Il n'est pour rien, il l'a d'ailleurs dit au juge, je n'ai pas tué Delphine. Il l'a dit chaque fois en préambule de ses auditions chez les juges. Patrick Hisson, correspondant RTL à Toulouse, quel est le sentiment qui prévaut sur place, chez les amis, les proches? Il y a une espèce de lassitude. Ils ont espoir qu'on retrouve Delphine, évidemment, mais il y a une lassitude dans ce dossier qui n'avance pas, on a l'impression.
Oui, il y a pas mal d'abattements. Mais il y a tout de même cet espoir qui a ressurgi un tout petit peu avec ces fouilles, ces gros moyens qui sont employés. On veut y croire, même si évidemment il y a peu de chances que le corps soit retrouvé à l'endroit où il est cherché aujourd'hui. Mais il y a tout de même un tout petit espoir. Et c'est vrai qu'il y a, il y a de l'angoisse, de l'abattement, beaucoup de problèmes psychologiques hein, chez les, dans la famille de Delphine. J'ai rencontré il y a quelques semaines le tonton qui a subi une grave dépression parce que cette année a été très compliquée de rebondissement en rebondissement. Évidemment, cette situation était extrêmement difficile à vivre pour eux. Leur slogan, il n'a pas changé, justice et vérité, c'est ce qui était affiché sur les derniers rassemblements, la marche pour Delphine, justice et vérité pour essayer de faire le deuil de cette affaire Jubilar.
Alors,
le deuil de Delphine.
Bien sûr, le deuil de Delphine. Patrick Hisson, on a l'impression qu'il est verrouillé un petit peu comme un coffre-fort, Cédric Jubilar. Est-ce qu'on a le sentiment qu'à un moment donné, il peut craquer ou raconter autre chose que ce qu'il raconte aujourd'hui?
Alors moi, je ne le connais pas suffisamment. Il donne le sentiment, pour tenir le choc autant de temps après des gardes à vue, après avoir été entendu par les juges d'instruction, d'être solide dans sa théorie, dans son hypothèse, dans ce qu'il dit, qui est peut-être la vérité. Hein. Il faut toujours laisser une place au doute, évidemment. Juste une femme qu'il connaît bien dans le village, qui n'a jamais voulu me parler devant le micro, mais qui finalement m'a dit quelques mots, qui m'a dit qu'elle était à une époque, tous les soirs avec lui, ou très régulièrement, et qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi dur comme de la pierre, me disait-elle, il ne changera pas d'avis.
Un homme dur comme de la pierre. Merci beaucoup Patrick Hisson, maître Jean-Baptiste Allary, Frédéric Abella et puis maître Philippe Pressec d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.